votre présence, je vous laisse la parole.
Merci Madame, c'est moi qui vous remercie de votre invitation. Madame la sénatrice, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et je voudrais d'abord saluer l'abnégation et le travail que vous avez mené à l'issue de la loi AGEC, madame la sénatrice et monsieur le sénateur, et que vous continuez à mener, parce que une chose est de voter la loi, une autre est de la contrôler, de l'évaluer, et vous le faites avec beaucoup de détermination, beaucoup de précision, beaucoup de rigueur, beaucoup d'exigence. Et je vois dans ces recommandations des injonctions, des invitations pour le gouvernement à s'en emparer. Le gouvernement le fera bien volontiers. Il y a le vote, mais il y a aussi le service après-vote, et vous l'assurez avec brio. Et rappelez également en préambule, mais tout le monde le sait dans cette salle, l'engagement, le combat qui sont les vôtres au service de l'économie circulaire. D'ailleurs, je crois que votre rapport a été adopté à l'unanimité en commission du développement durable. C'est le signe que l'économie circulaire, c'est plus un secteur marginal ou sectoriel, mais c'est un véritable pilier de notre politique environnementale, industrielle et territoriale. Alors, 5 ans après la loi AGEC, votre rapport met aussi en lumière les limites, les angles morts et les dysfonctionnements qui subsistent en matière d'économie circulaire. Je crois que 6 ans maintenant après l'adoption de la loi, nous devons regarder la réalité en face. Quelle est-elle, cette réalité? Oui, la politique d'économie circulaire a suscité une véritable prise de conscience. Oui, les entreprises ont profondément évolué, l'éco-conception progresse, la réparabilité est devenue un critère de compétitivité, le réemploi s'installe dans les modèles d'affaires, les collectivités ont structuré leurs dispositifs, les citoyens ont changé leurs pratiques. Cette dynamique ne suffit pas. Et je veux le dire avec clarté, les filières à responsabilité élargie du producteur, qui constituent l'ossature de notre modèle d'économie circulaire, connaissent des dysfonctionnements qu'il nous faut corriger. Les REP sont un outil puissant. Vous avez rappelé les volumes, et on peut également rappeler le succès qu'elles ont permis de rencontrer s'agissant des volumes collectés, des volumes triés et des volumes valorisés. Mais il faut aussi reconnaître que le montant des éco-contributions devient aujourd'hui extrêmement important, exponentiel à horizon 2030. Et par conséquent, il faut que pour les entreprises, pour les metteurs sur le marché, 1 euro prélevé puisse être 1 euro utile, et que la rationalité économique se conjugue avec la performance environnementale. Celui qui met un produit sur le marché doit assumer la responsabilité de sa fin de vie. C'est logique, c'est écologique, et c'est, dans le fond, c'est un principe profondément libéral qui consiste à internaliser les coûts, à responsabiliser les acteurs économiques et à créer des incitations à l'innovation. Mais encore faut-il, mesdames et messieurs, que le système fonctionne. Aujourd'hui, force est de constater que trop d'entreprises contributrices ne disposent pas d'une vision suffisamment claire de l'usage des éco-contributions qu'elles versent. En aval, trop d'opérateurs de déchets expriment des difficultés dans leurs relations avec les éco-organismes, les collectivités territoriales, chez Nicolas Garnier. Parfois, le sentiment de se retrouver être un maillon subsidiaire de la chaîne de gestion des déchets, de faire le travail qui n'a pas été fait au préalable. Par ailleurs, trop d'objectifs environnementaux ne sont pas atteints avec la rigueur attendue. Il existe également des insuffisances dans le pilotage par la donnée. Ce sont des débats qui nous occuperont la semaine prochaine dans le projet de loi d'ASU, madame le rapporteur, avec aujourd'hui des outils de suivi qui sont fragmentés, hétérogènes et parfois insuffisamment exploitables pour savoir si la performance environnementale est au rendez-vous de l'action publique et privée. Et puis, il existe des performances inégales selon les filières, si l'on est honnête, que ce soit en matière de prévention, de collecte, de recyclage et surtout de réemploi. Et puis surtout, vous avez parlé du rôle de l'État régulateur et stratège. Le régime de sanctions n'est pas suffisamment dissuasif lorsque les obligations ne sont pas respectées. Au fond, aujourd'hui, lorsqu'un éco-organisme ne respecte pas son cahier des charges ou lorsqu'une entreprise ne contribue pas, qu'elle est un passager clandestin, les conséquences ne sont pas à la hauteur des enjeux ou mettent trop de temps à arriver, ce qui crée un sentiment d'injustice et fragilise évidemment l'acceptabilité de l'ensemble du système. Et cela, ça crée un double risque, un préjudice écologique, parce que nous ne progressons pas assez vite, et un préjudice économique, parce qu'évidemment, la confiance des entreprises dans le système système et dans les filières peut s'éroder. Alors je le dis avec beaucoup de sérieux, le rôle des pouvoirs publics, le rôle du Parlement, le rôle du gouvernement n'est pas de défendre un système parce qu'il existe, le rôle c'est de le réformer lorsqu'il ne délivre pas pleinement ce que l'on attend de lui. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait avec Monique Barbu de la refondation des filières REP une priorité politique, convaincue que nous sommes que l'économie circulaire doit être à la fois une ambition environnementale, mais aussi un levier de compétitivité pour nos entreprises. Et donc nous agissons de manière concrète et structurée en essayant de refonder deux filières prioritaires, la filière des déchets du bâtiment, des matériaux de construction du bâtiment et la filière textile qui sont celles qui présentent le plus de difficultés structurelles et conjoncturelles à date, avec quelques principes clairs dont nous souhaitons nous doter pour refonder ces deux filières. Tout d'abord, le pilotage doit être renforcé sur l'ensemble du cycle de vie des produits. Ça a été dit, madame la sénatrice, monsieur le sénateur, mais l'économie circulaire ne se limite pas, ne peut pas se limiter à la gestion des déchets. Elle commence dès la conception, elle doit prioriser la prévention, la réparation, le réemploi, avant même le recyclage. Et c'est aussi cela le rôle de l'État stratège que de le rappeler et que de le redire avec force dans la refondation de ces filières. Et puis surtout, cette refondation s'appuie sur un principe qui est un principe qui devrait, s'agissant des montants en jeu, toutes et tous nous guider, qui est celui du pilotage par la performance. Oui, il faut des outils de pilotage par la performance de l'ensemble des filières qui conjuguent performance environnementale et performance écologique. De ce point de vue, il me semble évident que nous devons nous doter de règles de bonne gestion et qu'il serait incompréhensible que des euros prélevés sur des entreprises puissent demain servir de trésorerie ou de dépenses de communication et ne pas servir l'éco-conception, le réemploi ou la création d'une filière industrielle susceptible de mieux valoriser nos déchets dans notre pays. Et donc, les euros prélevés doivent aller, mesdames et messieurs, et madame la sénatrice, monsieur le sénateur, sur le terrain et sur les priorités politiques qui sont celles que fixent le Parlement et le gouvernement. Votre rapport insiste, madame la sénatrice, sur la nécessité de rationaliser les instances, de mieux organiser les comités des parties prenantes, avec une structuration par filière, cher monsieur Bluff, qui me paraît absolument indispensable, afin de fluidifier la prise de décision et surtout de sortir d'une logique, dans le fond, de complexité procédurale pour revenir à une logique de résultat. Alors, nous travaillons à améliorer également la traçabilité et la transparence. Je sais que de nombreux amendements vous occupent, madame le rapporteur, dans le projet de loi d'avis pour la semaine prochaine. Et je salue ici les services de l'ADEME qui sont présents. Je pense qu'on peut collectivement progresser vers une meilleure transmission et une meilleure exploitation des données en lien avec l'ADEME et les services de l'État qui sont ici présents et que je remercie. Simplification, par exemple, via une plateforme unique de transmission des données qui ira dans le bon sens si elle permet à la fois de réduire la charge administrative des entreprises et d'améliorer le pilotage des filières. Trop souvent, à l'heure actuelle, ni les entreprises contributrices, ni les collectivités, ni même l'État n'ont une vision claire et consolidée de l'utilisation des éco-contributions. Encore une fois, il s'agit là de centaines d'euros, de milliards d'euros qui sont en jeu. Il est pleinement légitime que chacun et chacune des metteurs sur le marché, chacune et chacune des entreprises concernées puissent savoir précisément à quoi servent ces éco-contributions. Enfin, et c'est un point essentiel, nous renforcerons le régime de sanctions. Nous allons proposer, dans le cadre du projet de loi d'ADU, un amendement pour rendre les sanctions réellement effectives lorsque les objectifs ne sont pas atteints ou lorsque les obligations ne sont pas respectées par les éco-organismes. Aujourd'hui, on est dans un système dans lequel la loi fixe beaucoup, notamment de dépenses obligatoires aux éco-organismes, et empêche à l'État d'avoir un pilotage par la performance, de prendre des décisions sur la base des performances environnementales et écologiques à l'issue. Dans un système plus libéral, on peut imaginer que les éco-organismes soient plus libres de l'emploi de leurs deniers, mais qu'il y ait un véritable régime de sanctions qui soit susceptible de rétroagir ensuite sur la façon dont les affaires sont conduites. C'est donc un amendement que nous déposerons la semaine prochaine. On aura ce débat mesdames et messieurs les sénateurs. C'est aussi une question d'équité vis-à-vis évidemment des entreprises qui jouent le jeu et de crédibilité, je crois, vis-à-vis de nos concitoyens au moment où les enjeux écologiques sont parfois challengés dans l'opinion publique. Et puis c'est aussi un enjeu fondamental de compétitivité. J'ai été un peu négatif jusqu'à présent, mais moi je crois profondément que écologie et économie ne s'opposent pas, et je crois profondément que les filières d'économie circulaire sont des filières d'avenir pour la compétitivité de notre pays, à condition qu'on mette l'accent et qu'on mette le paquet sur l'industrialisation de l'ensemble des filières. Et je crois fondamentalement qu'un bon nombre des difficultés qu'on peut connaître à date sur ces questions d'économie circulaire seront demain résolues si on arrive à industrialiser des filières. Regardez par exemple sur la question du textile, on a de nombreux porteurs de projets et demain, me semble-t-il, serait mieux employés plutôt que d'aller exporter nous-mêmes nos propres déchets à l'étranger. C'est à la fois un enjeu d'opinion publique parce que les Français ne le comprennent pas, et puis c'est surtout un enjeu d'emploi et de compétitivité. Et donc la responsabilité des politiques et des politiques publiques, c'est de tout mettre en œuvre pour que ces filières puissent se structurer, se développer. Évidemment, le rôle des pouvoirs publics, le rôle notamment de l'ADEME, c'est de faire en sorte de réduire le déficit de compétitivité qui peut exister entre des produits recyclés et l'importation de matières vierges. C'est difficile, c'est délicat. On l'a fait dans le plastique. Demain, j'espère que nous pourrons le faire dans le textile. Mais en tout état de cause, je suis convaincu qu'il y a là un chemin pour avoir plus d'emplois locaux, plus de valorisation environnementale et plus de compétitivité pour notre entreprise. Alors évidemment, tout cela, ce sera mon dernier point, ne se fera que dans la concertation avec les éco-organismes, avec les fédérations professionnelles, avec les collectivités territoriales, avec les associations environnementales et bien sûr les administrations concernées. Je vois la Direction Générale de la Prévention des Risques qui est présente. Je veux les saluer pour le travail qu'ils font. Ils gèrent 23 filières avec des effectifs qui sont mobilisés à temps plein. Donc merci à eux. Concertation qui n'est pas une formalité, mais qui permettra, me semble-t-il, de lever les blocages, d'ajuster les dispositifs quand il le faut et d'anticiper les effets économiques des décisions que nous prenons. Mais la concertation n'exclut pas la décision, et lorsque l'intérêt général l'exige, nous devons savoir trancher. Trancher avec le Parlement, qui a un rôle central dans l'évaluation des politiques publiques, un rôle central dans la dynamique qui est portée en matière d'économie circulaire. Comme dans beaucoup de sujets en matière environnementale, moi je reste convaincu que c'est parce qu'il y a des pionniers, des gens qui, comme vous, madame la sénatrice, monsieur le sénateur, ont mis le pied dans la porte il y a 6 ans, que celles-ci peuvent progresser. Donc nous aurons besoin de vous, nous continuerons à avoir besoin de vous et à travailler en bonne intelligence avec vous pour faire progresser les filières, pour faire progresser la rationalité économique et la rationalité environnementale. 5 ans après la loi AGEC, nous entrons dans une nouvelle phase, celle de la consolidation, de l'exigence et de la performance. Réformer les REP, renforcer la transparence, responsabiliser les acteurs, soutenir les entreprises qui innovent et sécuriser les collectivités. Voilà le cap. Je vous souhaite une matinée riche en débats, en vous remerciant une nouvelle fois et de votre invitation et de mettre à l'agenda l'ensemble de ces sujets qui sont des sujets essentiels de politique publique et de politique économique. Merci à toutes et à tous.